Bienvenue sur cet épisode un peu particulier d'Actionneur. Pour la première fois, nous n'allons pas revenir sur une saga de films ou le parcours d'un des acteurs de l'Actionneur. Nous allons prendre juste le temps de nous poser et de revenir sur les films d'action et d'aventure qui nous ont marqués à titre personnel. Donc un numéro exceptionnel, disposition exceptionnelle. Car nous accueillons deux nouvelles personnes pour nous accompagner. Tout d'abord Constance. Salut Constance.
Salut.
Et ensuite Steven.
Salut.
Et enfin, bon, vous le connaissez, Thibaut. Salut Thibaut.
Ouais, j'aime bien le petit enfin en mode, ouais bon, il est toujours là, donc on s'en fout un peu.
J'allais rebalancer le Ethan Hunt des Vosges alors.
Le Ethan Hunt des Vosges, parfait, j'adore ce surnom, c'est comme ça que je veux être enterré. Mais bon, à suivre.
Alors on va commencer par un petit point actu. On va commencer par parler de Neil Blomkamp sur Robocop. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut ?
Je suis un petit peu surpris. Ces derniers temps, Blomkamp, il avait surtout donné dans une série de courts-métrages via son studio plus ou moins indépendant qui était Out, avec la volonté de casser un petit peu le moule. Et là, il revient sur une franchise qui n'est pas Alien, comme on aurait pu le croire, mais Robocop, donc un peu contemporain quand même. Et pour aussi un selectif sequel, comme on dit dans le milieu, avec une suite directe du premier Robocop qui fera fille du deuxième et du troisième. Donc je trouve ça un peu étrange, mais il paraît que Peter Weller pourrait revenir dans le rôle et je trouverais ça assez curieux en fait. Donc je ne sais pas trop comment accueillir cette nouvelle, d'autant que j'avais plus ou moins bien aimé le reboot de José Padilla, qui n'était pas exceptionnel mais pas non plus aussi merdique que j'aurais pu l'imaginer. Voilà.
Constance, t'as un avis ?
Pas spécialement, je suis pas très attachée à la franchise Robocop. Après, je me dis que ça peut être intéressant si Neil Blomkamp a vraiment carte blanche, qu'il puisse imposer un peu son style un peu cradoc, assez dystopique et tout, qui peut être vraiment intéressant, je pense, sur cette franchise-là.
Steven ?
Ouais, moi je suis assez d'accord. Moi j'adore son travail. J'adore le court-métrage qu'il avait fait, la Raka.
Ouais, c'était cool.
Mais... je sais pas, si effectivement il a carte blanche sur la franchise, je crois qu'il a les moyens de faire quelque chose de plutôt pas mal, ou en tout cas, j'espère, aussi gore que le premier que j'avais vu qui m'avait tellement marqué.
Moi, à mes yeux, je pense que c'est le seul réalisateur, en tout cas, ouais, à ma connaissance, qui peut reprendre Robocop et lui donner peut-être une patine qui avait été perdue sur... tous les films qui ont suivi, quoi.
Mais Chappie, c'est pas un peu déjà Robocop ?
Ouais, ouais, bah c'est un proto-Robocop, quoi.
C'est un vrai robot. C'est pas un cyborg-cop.
Allez, on va passer au gros de notre dossier. Quand j'ai posé la question à chacun des chroniqueurs qui sont ici, de savoir quel était leur film préféré, j'ai été complètement bluffé par les réponses. Parce que moi, j'attendais presque des classiques. Et à part un seul, qui est un classique de l'actionneur, j'ai trouvé que chaque réponse qui m'ont été apportée montrait à la fois que l'actionneur, c'est pas forcément quelque chose de monolithique. Et surtout que chacun est marqué par des films qui sont très différents des uns des autres. Et ça me prouve cette richesse qui n'est pas liée qu'à des grandes stars comme The Rock aujourd'hui ou à l'époque Stallone, Schwarzenegger et ainsi de suite, qui ont presque posé des œillères sur un genre qui d'une certaine manière est protéiforme. Alors je vais commencer par Constance qui va me parler de son film.
Oui, tout à fait. Alors moi j'ai réfléchi et assez rapidement, c'est un de mes films préférés qui s'est imposé. C'est la saga Pirates des Caraïbes, en particulier le premier, mais également le 2 et le 3. Le premier film est sorti en 2003. À l'époque, j'avais 11 ans et j'étais allée voir ça au cinéma avec mon papa et mon petit frère. Et j'en étais ressortie à moitié effrayée et en même temps, j'avais trouvé ça totalement génial. Et je me suis mis à vouer un véritable culte à ce film. J'achetais tous les fans de One, magazine de l'époque qui parlaient des stars des films. Et j'avais pas mal de posters. J'avais récupéré un poster géant qui faisait la taille du mur de ma chambre, de l'affiche. Et c'est vraiment un des films, je pense, qui m'a marqué très jeune et qui a marqué un peu le départ de ma cinéphilie plus adulte, on va dire. Voilà, où je pense que c'est un des films où je suis vraiment sortie des films que tu peux voir quand t'es gosse, les Disney, les dessins animés, etc. Et c'est vraiment le point de départ, je pense, de ma carrière et de mon amour pour le cinéma, et en particulier le cinéma hollywoodien d'action et d'aventure que je continue d'aimer beaucoup aujourd'hui.
Et c'est quoi qui t'a le plus marqué ? Les acteurs ? Le contexte de la piraterie ou
Je pense que j'ai toujours été un peu fascinée par les univers fantastiques en général, et en particulier par le monde de la mer, de l'eau, voilà, genre les sirènes, les pirates et tout. J'ai trouvé ça toujours un petit peu fascinant. Et il faut savoir aussi que j'avais été 2 ou 3 ans auparavant à Disneyland Paris, et que donc j'avais fait l'attraction Pirates des Caraïbes. Puisqu'il ne faut pas oublier que le film est effectivement bel et bien basé sur cette attraction. Et donc, j'étais ressortie de cette attraction Pirates des Caraïbes assez traumatisée par ces squelettes pirates qui m'avaient vraiment fait peur. En même temps, avec une sorte de fascination pour ces trésors et ces aventures en fait, assez improbables. Et je pense que du coup, le film a fait écho à ça. Et puis, je sais pas, il y a un sens de l'aventure dans ce film. Il y a tout, quoi. T'as des héros qui sont arrachés à leur destin et leur vie toute tracée. T'as des pirates maudits. T'as des corsaires qui sont sur les mers et qui font régner la loi. Et en plus, il y a toutes ces ambiances, cette ambiance de film d'époque aussi, avec des costumes, des décors forcément très exotiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses, que ce soit visuellement ou par rapport aux sentiments, aux souvenirs que ça peut évoquer, à toute la mythologie que ça invoque. Et je pense que c'est ça qui m'a fascinée. Et puis, en particulier, le personnage d'Elizabeth Swann, forcément, m'a beaucoup plu. Enfin, en tant que jeune fille, à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup de femmes d'action, en fait, en tête. Et on n'en voyait pas si souvent que ça au cinéma, mis à part 2-3 rôles cultes, on va dire, des films des années 80, par exemple. Et du coup, il y avait ce personnage qui était cette petite proto-princesse, mais en fait, elle n'était pas vraiment dans le moule de la princesse en détresse. Enfin, elle s'intéresse très vite aux pirates, et voilà, ben, quand il faut sortir une épée et aller négocier avec Capitaine Barbossa qui vient d'attaquer sa ville, elle le fait. Et elle se laisse entraîner dans cette aventure, et on se laisse entraîner avec elle. Et voilà, enfin, ce personnage m'a marqué, et je l'aime toujours beaucoup aujourd'hui.
Mais d'une certaine manière, c'est presque une proto-princesse telle que, enfin, ou en tout cas, proto-personnage qui découlera après, je trouve, dans les films Star Wars. Je trouve qu'elle ressemble un peu à Rey dans sa trajectoire, même si Rey, c'est quelqu'un qui part de rien, c'est une fille de rien et qui va vers sa destinée, là où le personnage d'Elizabeth Swann est quelqu'un qui a vécu dans un cocon, qui la protège, et d'une certaine manière, elle en ressort pour... s'émanciper et devenir ce qu'elle veut être. Je trouve que c'est quand même des personnages qu'on retrouve un peu maintenant, je trouve, dans les sagas Star Wars.
C'est vrai qu'on peut faire une...
un liaison parallèle.
Entre... un parallèle, voilà, merci. entre Rey et Elizabeth Swann, et peut-être même aussi avec Padmé, en fait, hein, qui était cette... Ouais. Pour elle, du coup, vraiment une reine, et qui prend les armes et va vers son destin et suit ses désirs pour être avec l'homme qu'elle aime, même si c'est contre les conventions sociales. Et c'est un peu le destin qu'Elizabeth Swann a, en fait, hein, de se quitter sa famille noble pour aller épouser le forgeron fils de pirate du coin et mener sa propre vie de pirate. Et elle abandonne assez rapidement les robes à corset pour être habillée comme un vrai pirate, porter des pantalons, tout ça. Et je pense que c'est un personnage qui a, mine de rien, quand même un peu inspiré, en tout cas, peut-être un renouveau des personnages qu'on a pu voir dans les films hollywoodiens un peu plus tard, sur les années, fin des années 2000, années 2010.
Mais si je peux me permettre, moi j'ai l'impression qu'ils sont aussi servis de ce moule. Quoique je suis pas sûr de ce qui est venu en premier, mais pour tous les nouveaux personnages féminins des films Disney, je crois que plutôt que d'aller pour la princesse fragile en détresse qui a besoin de son prince pour la sauver, ils vont pour un personnage, bah, disons, plus normal, quoi, fort, avec ses qualités, qui qui se sort de ses embrouilles toute seule, quoi.
Ouais, bah, Disney l'avait déjà un peu fait avec Mulan, hein, quand même, qui était sorti 2-3-4 ans auparavant, si je ne me trompe pas, qui était déjà quand même cette... on va dire, qui marquait un petit peu le renouveau des princesses Disney qui se prennent en main, qui peuvent faire preuve de violence, enfin aller faire la guerre, etc. Et là, je pense que c'est... Bah ouais, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans Elizabeth Swann et dans son personnage qui n'était pas évident, hein, parce que dans les films de pirates, on ne pense pas forcément à se dire, ben ouais, il y a aussi des nanas pirates, alors que historiquement, il y en a eu, des très intéressantes. Et du coup, bah, c'était vraiment chouette de voir ce personnage-là. Mais c'est pas le seul, c'est un des personnages parmi toute une galerie de personnages principaux comme secondaires d'ailleurs, qui sont assez géniaux dans les trois premiers films.
On est obligé de parler de Johnny Depp, de sa prestation, qui d'une certaine manière contredit le côté, j'allais dire presque barbare, d'une masculinité exacerbée, où c'est plutôt un personnage super maniéré, qui contrevient presque à toutes ces idées de héros, d'actionneurs et de pirates comme ça.
Brut et sanguinaire.
Exactement, brut et sanguinaire. Et d'ailleurs, Jerry Bruckheimer, ouais, vas-y.
Oui, non, mais du coup, je voulais parler un tout petit peu de ce personnage de Jack Sparrow. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, quand on connaît un petit peu les dessous de la vie privée de Johnny Depp, c'est vrai que quand je regarde les films aujourd'hui, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, son rôle n'était pas évident. Il faut savoir que Johnny Depp, quand il se retrouve tête d'affiche de Pirates des Caraïbes, il n'avait pas forcément joué dans des blockbusters d'action auparavant. Et du coup, c'était un rôle un petit peu étrange, on va dire, pour le milieu à l'époque. Et c'est vrai qu'il a inventé ce personnage totalement lunaire, un petit peu sorti de nulle part. Et certes, il n'est pas forcément dans cette masculinité de l'hyperviolence, mais il est quand même très sûr de lui. Mine de rien, il sait quand même très bien se battre. Il est dans la séduction. On sait qu'il a eu de nombreuses histoires d'amour avec tout un tas de personnages féminins dans les films. Et il a toutes ces ruses et ce côté... calculateur, manipulateur, qu'on voyait peut-être plus du côté des méchants auparavant. Ouais. Et en fait, il s'en empare aussi pour... et ça fait une de ses forces, quoi.
Ouais, carrément. Et d'ailleurs, donc, je vais parler vite fait de l'avenir de la franchise, parce que Jerry Bruckheimer a annoncé que l'avenir de la franchise ne pouvait pas se faire sans Johnny Depp. Et quand on sait ce qui s'est passé avec James Gunn, donc qu'il s'est fait renvoyer pour des tweets super tendancieux, mais auquel il s'est excusé, tu penses que Pirates des Caraïbes peut encore tourner avec Johnny Depp ?
Honnêtement, je sais pas. Quand on voit les deux derniers films, ils sont pas très bons. Après, ils ont quand même eu une réception au box-office qui est pas dégueulasse, et c'est pour ça que Disney continue à vouloir exploiter la franchise, hein. Faut pas se voiler la face. Après, honnêtement, je sais pas trop. Bon, Johnny Depp a été maintenu là dans les Animaux Fantastiques, mais on sait que du côté des fans, il y a eu quand même beaucoup de mouvements sur Internet, de gens qui se sont plaints. Et honnêtement, je pense que la franchise a aussi besoin de se renouveler. Mais dans le même temps, j'ai bien conscience que Jack Sparrow est le personnage fondateur de cette franchise. C'est un des seuls persos qu'on voit dans tous les films, qui était littéralement la tête d'affiche dès le premier film. Et voilà, ça raconte ses aventures à lui. Donc c'est vrai que ça me paraît un petit peu compliqué de tourner la page, même si on sent très bien dans le dernier film qu'il commence à mettre des personnages plus jeunes qui pourraient éventuellement prendre la relève et faire un petit peu oublier l'absence éventuelle d'un Jack Sparrow si prochain film il y a.
Et toi, tu voudrais quoi pour la suite ?
Sinon, ils peuvent rebooter dans l'espace. Pardon.
Tu disais quoi, Thibaut ?
Je disais que sinon, ils peuvent rebooter dans l'espace.
Qu'est-ce que je verrais pour la suite ? C'est...
un film sur le singe.
Non, c'est pitié.
Spin-off sur le singe.
Ils ont déjà laissé des indices là à la fin du dernier, comme quoi on pourrait avoir un retour de David Jones, ou en tout cas de cette histoire de la malédiction du Hollandais volant. Honnêtement, moi j'ai envie de dire, laisser, voilà, cette franchise, c'est pas grave, elle est terminée, passer à autre chose, quoi. Je tiens pas forcément à ce qu'il y ait un sixième, un septième Pirates des Caraïbes. Ou alors, faites vraiment revenir le personnage d'Elizabeth Swann. Pourquoi pas. Voilà, moi, j'aimerais bien.
Mais ils ont jamais su quoi faire à partir du 3. Tu sens que ça avait quand même été un film qui a bien marché. D'ailleurs, ils ont tourné le 2 et le 3 avec une tonalité, des décors et puis une histoire à peu près cohérente. Après, pendant des années, il n'y en a pas eu. Ils se sont dit, ah, c'est vrai que ça avait bien marché, on va en faire un quatrième, ça a marché. Mais en fait, il n'est pas du tout connecté aux trois premiers. Puis après, ils ont quand même voulu remettre dans le dernier Orlando Bloom et Keira Knightley. Mais en même temps, ils sont là 10 secondes dans le film et l'histoire, elle n'a toujours pas de sens. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient essayé de faire deux trilogies pour essayer de passer le flambeau, un peu ce que fait Star Wars en ce moment, tu vois. Donc j'ai juste l'impression qu'ils continuent de les faire juste pour le coup, vraiment juste pour la thune. Et pour refaire le parallèle avec Star Wars, on dit souvent qu'il y a que trois persos dans cette putain de galaxie. C'est à peu près la même chose dans les mers des Caraïbes. Donc David Jones, il est là un film sur deux et c'est le méchant, et sinon c'est les Anglais, et sinon c'est Barbossa, voilà. Il s'alterne comme ça. Je trouve ça un peu dommage parce que tu pourrais tabler sur plein de légendes et de trucs de la piraterie un peu plus sexy, je trouve.
Oui, je pense qu'il pourrait explorer d'autres choses. Après, effectivement, il y a des enjeux financiers qui sont liés aussi, pour le coup, à l'exploitation directe des attractions Pirates des Caraïbes, parce qu'en fait, elles ont été dans un espèce de ping-pong des éléments médiatiques. Elles ont été remises au goût du jour par rapport au film qu'elles ont elles-mêmes inspiré. Forcément, Disney continue à exploiter tout ça joyeusement, et je les imagine mal abandonner... une franchise qui rapporte quand même énormément au box-office. Enfin voilà, il y a plusieurs films de la franchise qui sont allés chercher le milliard de dollars au box-office mondial. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est de toute façon une franchise qui est un peu bigger than life. Hein. Le Pirates des Caraïbes 3, à l'époque où il a été tourné, avec plus de 300 millions de dollars de budget, c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Tout ça pour un film avec ça a commencé avec... pour un film basé sur une attraction avec des pirates zombies. Enfin, c'est totalement improbable. Et d'ailleurs, pas grand monde y croyait, hein, au succès du premier. À l'époque où ça a été fait, les films de pirates, ça faisait 10 ans que ça marchait plus. Tout le monde était là, franchement, votre truc basé sur une attraction qui date des années 60, enfin, ça va faire un flop, quoi. Et au final, ça a marché de manière spectaculaire et... C'est assez incroyable, et je l'aime aussi parce que ben voilà, il y a toute cette histoire qui fait que c'est un petit peu un espèce d'ovni du cinéma et qui est là mine de rien depuis 15 ans dans notre paysage culturel, quoi.
Mais il fait partie de ces films, enfin de ces franchises qui sont nées il y a quelques années et qui à l'instar de Fast and Furious, qui continuent en tout cas à générer une certaine forme d'intérêt, en tout cas pour moi, de la part du public, quoi. Moi, si je voyais une suite, tu en parlais vite fait des femmes pirates, mais alors moi qui suis un uber fan des pirates, et mon livre préféré, c'est L'île au trésor, mais j'adorerais voir Mary Read ou Anne Bonny dans l'univers de Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire garder ce côté fantasy et rajouter peut-être un peu plus de contextualisation pirate réelle dans ce cadre-là. Moi, j'adorerais voir ça.
Oui, moi aussi, je pense que ça pourrait être hyper intéressant, et je pense qu'il serait aussi intéressant, alors après, à voir si Disney se sent les épaules pour aller explorer ça. C'est un peu le discours social, en fait, autour des pirates, que ce soit autour des femmes pirates ou des pirates en général. Enfin voilà, c'est des films qui sont pas dénués de certains problèmes, notamment le 2 a des passages qui sont vraiment très très racistes, et qui... à l'époque où ils sont sortis, ça passait encore, quoique, mais je pense qu'aujourd'hui, ça aurait beaucoup plus de mal à se faire. Et je pense qu'il y a un vrai discours intéressant qui pourrait se développer autour de ça, à voir si Disney se saisira de cette opportunité.
Et surtout, quoi, effectivement, le fond de la piraterie, c'est quand même un discours libertaire, très très important. Donc,
Bah, totalement, c'est une rébellion contre l'ordre établi, contre les bonnes mœurs de l'époque. Alors bon, bien sûr, c'est en soi, les sociétés pirates sont pas forcément beaucoup plus égalitaires, mais je pense que tu peux avoir un discours, je sais pas, sur la liberté. Par exemple, il y a aucun mot sur l'esclavage en fait dans les Pirates des Caraïbes, alors que ben ça se passait aussi à cette époque, quoi. Tu pourrais avoir un discours un peu plus intéressant là-dessus.
Bah d'ailleurs, moi, si je peux conseiller vite fait quelque chose, il y a deux livres de Daniel Defoe, ça a été découpé en deux, ça s'appelle Les Chemins de Fortune, qui retrace la vie de tous les pirates. Et donc, ça commence par raconter ce qu'est la vie des pirates et surtout pourquoi un certain nombre de personnes se jettent dans la piraterie. Parce qu'il faut savoir que la marine marchande engageait de force des gens, c'est-à-dire souvent dans des bars et tout ça. Les gens se retrouvaient directement sur un bateau le lendemain, après avoir trop bu. Ce qui fait que, d'une certaine manière, ça a créé une espèce de ressentiment et donc une volonté, quand ceux qui arrivaient à traverser l'Atlantique se retrouvaient de l'autre côté, de quitter aussi ce travail forcé qui était la marine marchande. Allez, on va continuer avec le deuxième film de Steven, parce que je laisse le dernier film un peu honteux en dernier. Je ne veux pas dire qui est un film honteux. Mais il fait les...
Ah, c'est un épisode full problématique d'Actionner. Voilà. Johnny Depp, et attention, la suite est encore un autre level. On va être bien. On est bien.
Alors, Steven, vas-y, parle-nous de ton film.
Alors, moi, j'ai... À la différence de Constance, moi, ça m'a pris du temps à trouver de quoi parler. J'ai pensé à beaucoup de choses avant d'atterrir là-dessus. Et
Ouais, je connais quelqu'un aussi qui a mis beaucoup de temps avant de trouver son film honteux.
Oh, ça balance.
Ça balance. On peut parler du film de Steven que j'allais spoiler là.
Et comme Constance, en fait, j'avais une dizaine d'années. Je devais avoir 12 ans quand ce film-là est sorti. Et ce qui correspond un petit peu à l'âge du héros. Donc c'est Terminator 2, Judgment Day, que j'ai choisi de parler. Moi, c'est un film qui m'a marqué à l'époque parce que, bah, déjà, ça met en scène Arnold Schwarzenegger, superstar de l'époque. Et à la suite du premier Terminator, on le retrouve en tant que gentil. Et ça suit... alors, je ne sais pas s'il est besoin de raconter l'histoire complète du film, mais la raison pour laquelle moi, je l'ai choisi, c'est parce que je me suis très vite identifié à ce héros d'une dizaine d'années qui avait un jouet géant, un Terminator à lui tout seul. Alors, franchement, qu'est-ce que tu peux demander de plus que ça, quoi.
Et tu l'as vu où? Parce que, spoiler, donc Steven, c'est mon frère. Et moi, je me souviens très bien de la première fois où je l'ai vu.
Ah bah alors, raconte-moi, parce que je sais que c'était une des questions que tu voulais qu'on développe, mais moi, je me souviens plus du tout.
Moi, je l'ai vu au cinéma, et je me souviens, il y avait tellement de monde dans la salle que les gens étaient assis dans les marches. C'était le jour de la sortie, je crois que c'était une avant-première. Mais je pense que j'étais tout seul, parce que je me souviens pas que t'étais là.
Non, on n'était pas ensemble ?
Non, je crois pas.
Bah écoute, moi, je me souviens plus, mais ça fait partie de ces films que j'ai vu tellement de fois que je suis incapable de retrouver le moment où je l'ai vu au tout début. C'est devenu un tel classique du film d'action que c'est passé un milliard de fois à la télé. Moi, je serais incapable de dire quand est-ce que je l'ai vu la première fois. Mais je l'ai vu au cinéma aussi.
Et qu'est-ce que t'en penses des autres films qui ont suivi ?
Oh, c'est de la grosse daube. Moi, à part le 1 et le 2, le 1 que j'ai adoré parce que c'est vraiment un classique de la science-fiction. C'est dark, ça se passe souvent de nuit, il pleut. T'as une grosse course-poursuite qui me fait beaucoup penser au film de Mad Max, tu sais, où le film est accéléré pour donner une impression de vitesse et tout ça. Mais le deuxième, bon, tu vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de budget. Donc, ils ont eu les droits de filmer de nuit cette fois. De jour, pardon, plutôt que de nuit. Et, mais énormément d'explosions. Enfin, je ne sais quoi dire d'autre.
Quelqu'un a un truc à dire sur Terminator?
Terminator 2, méga classique de l'actionneur, même au sommet ou sur le podium, selon moi, quoi. Alors, James Cameron étant quand même l'un des meilleurs quand il s'agit de créer ce genre de pépite et de renverser un petit peu la vapeur après un premier film. Je pense aussi à Aliens. Bon, là, le premier film, c'est aussi de lui, mais la façon dont Steven le rappelait, tu retrouves le Terminator. Moi, je me souviens quand j'ai découvert cette franchise au début de mon adolescence, et en fait j'ai eu un peu l'effet inverse, c'est que pour moi en fait le Terminator il était gentil, et c'est en voyant le premier en fait que j'ai été un peu traumatisé par le côté méchant, et parce que dans les enfin le soulèvement des machines, ça doit être le début des années 2000, donc Terminator 3. Et donc, il était déjà du côté des gentils. Donc, en fait, moi, en grandissant, en étant petit dans les années 90, pour moi, il était gentil, le Terminator de Schwarzy. Et en fait, c'est quand j'ai redécouvert la franchise pour la première fois que j'ai vraiment vu les films, j'ai eu l'effet inverse. Et par contre, Terminator 2, c'est toujours une claque. Aujourd'hui, quand je le revois, c'est un film qui n'a pas vieilli. J'ai pas eu la chance de revoir l'édition 3D, là, qui est sortie l'année dernière. 3D, 4K, mes couilles, tout ça. Mais ça avait l'air assez génial. Je sais que je préfère par contre la version longue à la version courte du film, parce que pour moi il y a une scène qui est centrale dans Terminator 2. Alors on rentre tout de suite dans les détails, mais je vais dire, je pense que tout le monde connaît à peu près Terminator 2 si vous écoutez ce podcast, en tout cas j'espère, sinon arrêtez-le maintenant et allez le voir tout de suite. Et mais c'est la scène où Sarah Connor, après plusieurs heures aux côtés du Terminator, décide qu'elle va quand même le tuer et éclater sa puce avec un marteau. Et c'est John, le petit gamin, qui dit non, il est de notre côté, et qui le sauve, quoi, quelque part. Et j'ai toujours trouvé que ça apportait une espèce de... la substance du film, pour moi, elle était dans cette scène, et j'ai toujours du mal avec les versions... Director's Cut et non Director's Cut de Cameron. J'ai toujours l'impression qu'il coupe les trucs qu'il fallait absolument pas couper, mais après on a peut-être pas les mêmes sensibilités, Jim et moi, c'est tout. Mais c'est un film exceptionnel, la transformation de Sarah Connor. Bon, je vais laisser Constance en parler parce qu'elle a écrit là-dessus académiquement, mais je trouve que c'est magnifique aussi. Le T-1000, c'est l'un des meilleurs adversaires du cinéma, je trouve. Le truc est imbutable. Je me souviens que mes parents avaient été voir, eux, Terminator et Terminator 2, quand ils étaient un peu plus jeunes. Et moi, ils me racontaient que c'était devenu le film culte parce que t'allais au ciné et tu comprenais pas comment le mec ne cessait de revenir parce qu'il est intuable. Donc c'était déjà le cas dans le premier. Quand tu vois le premier, tu te dis, ils pourront jamais faire un mec encore plus violent, encore plus inarrêtable. Et ils le font quand même. Mais heureusement, il y a Sarah Connor. Transition toute trouvée. Pour donner la parole à Constance. T'as vu, c'est beau.
C'est beau. Ouais, alors moi, il faut savoir que les Terminators, du coup, je les ai vus assez tardivement, en fait, justement pour un travail de mémoire académique sur les personnages féminins dans les films hollywoodiens. Et forcément, le personnage de Sarah Connor... Et c'est un moment emblématique du cinéma d'action et du cinéma en général sur la fin du XXe siècle, et ça a marqué un tournant. Et je pense qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'espoir en fait autour de ce personnage. Bon, c'est un petit peu retombé comme un soufflet, hein, en termes de qualité des personnages féminins. Ça n'a pas été ça dans les années 90, et encore aujourd'hui, parfois, ça reste à améliorer. Mais c'est vrai que c'est des films que j'aime beaucoup, surtout le 1 et le 2, le 4 aussi. Le 3 est assez médiocre, je trouve. Mais c'est un personnage qui... qui est hyper marquant qui est une héroïne qu'on ne voit pas souvent à l'écran, quoi, qui est musclée dans son espèce de tank top là, qui ressemble un peu à un mec, et c'est un visuel en fait, en tout cas, qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui. Enfin, même les héroïnes qu'on a à l'écran sont généralement assez sexualisées, et je pense qu'elle marquait une rupture, elle marque toujours, hein, une rupture avec ça. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire d'ailleurs dans le prochain.
Oui, parce qu'elle revient, notre amie.
Ah, elle est censée revenir, effectivement.
Bon, il y a les premiers visuels, ouais. Mais c'était assez horrible comme premier visuel. C'était dommage de commencer comme ça. Après, c'était peut-être juste pour réagir sur les photos de tournage. Du coup, ils ont voulu envoyer un visuel officiel, mais ça n'a même pas forcément envie. Même si j'aime assez Tim Miller comme réalisateur, donc il peut peut-être faire des trucs intéressants. Ce sera jamais pire que Terminator Genesis. Je pense qu'il faut, il faut se l'avouer. Il faut se l'avouer. Voilà. Quoique, on peut être surpris.
Allez, ça va être mon tour avant le film honteux.
Allez.
Alors moi, je vais vous parler de Time and Tide. Alors, il faut savoir que donc, j'ai grandi dans les années 80-90 et les actionneurs, ils passaient à la télé. Enfin, pour moi, c'était... La télé, c'était une espèce de robinet. C'est-à-dire, je me suis jamais posé la question de savoir ce qu'était un actionneur, ce qu'était un film. Je voyais L'Arme Fatale, Mad Max, Les Flics de Beverly Hills. Tout ça, ça faisait partie de mon paysage. Et en fin de compte, il a fallu que je rencontre le cinéma hongkongais pour que tout d'un coup, j'allais dire presque, non pas un choc culturel, mais un choc visuel, un choc esthétique et une manière de raconter ce que je connaissais déjà auparavant de manière différente, soit par des cadrages, soit par des actions, soit par des gestes, soit par des mouvements. Et je me souviens d'une fois où j'ai vu The Killer. La première fois que j'ai vu The Killer, c'était pendant la fête du cinéma. Et je suis sorti du cinéma totalement exalté. J'étais, mais subjugué, impressionné. Rarement, en sortant d'un cinéma, j'ai éprouvé une telle exaltation.
Une telle envie de flinguer des gens.
Exactement, mais tout en chorégraphie avec deux shotguns, en glissant.
Avec les colombes.
Exactement. Enfin bref, normal quoi.
En fait, du coup, moi j'ai pris un film honteux et toi t'as pris un film de hipster quoi.
Complet. Yes.
On me l'a déjà dit en plus, tu vois. Et donc, Time and Tide, il faut savoir que c'est Tsui-Har qui a fait pendant deux films d'ailleurs très nuls, un bref passage à Hollywood. Et il s'y est pas plu, et donc il a fait donc deux films avec Jean-Claude Van Damme. Donc, les noms sont Double Team et Piège à Hong Kong.
Ah c'est ouais, dire, avec Dennis Rodman dans Double Team.
Yeah.
Ah là 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 là, classique.
Putain, c'est deux bonnes bouses.
Ah, c'était mauvais.
C'est chaud.
Hein. Ouais, c'est clair.
Ah, je savais pas que c'était de lui en fait. Ok, d'accord.
Et donc, il retourne à Hong Kong et il filme Time and Tide. Et tu sens que dans ce film-là, il se libère du carcan hollywoodien. Il reprend tout son pouvoir de réalisateur. Et tu le sens dans le film. Ce film, il est merveilleux. Il va mettre du split screen, il va faire des arrêts sur image, il y a 1000 idées par plan. Et alors, l'histoire, je la raconte, parce que vu que c'est un film de hipster, les gens le connaissent pas trop, peut-être. Donc, c'est l'histoire de Tyler, qui est barman. Et un soir, il rencontre une femme qui vient de s'embrouiller avec sa petite copine. Donc, elle a besoin de noyer son chagrin. Et donc, ils font un espèce de concours de beuverie tous les deux. Et au final, ils finissent par se retrouver tous les deux au petit matin ensemble.
C'est une comédie romantique, en fait.
Et ça commence un peu comme une comédie romantique. Et ce qui est génial, c'est que la base, c'est d'abord une histoire d'un couple féminin lesbien. Et donc... ça traite ça de manière totalement naturelle. Ça coule dans le récit. Et en partant de là, ça a commencé déjà à me convaincre. Et ensuite, donc la fille, on se rend compte qu'il y a une ellipse. Et 9 mois plus tard, on se rend compte qu'elle est enceinte. Et lui, donc, le héros, va demander à son oncle de travailler pour lui. Et son oncle travaille dans une société illégale de sécurité. Lui, donc, c'est le petit jeune. Et quand il doit protéger des gens, il n'a pas le droit d'avoir une arme. Et donc... la seule chose qu'il trouve à faire, c'est acheter un pistolet à billes, parce que pour faire un peu plus professionnel, il s'achète un pistolet à billes. Et il va rencontrer donc un autre couple, où la femme est aussi enceinte, donc il y a une espèce de grossesse parallèle. Et donc lui, l'homme, on va découvrir que c'est un ancien mercenaire qui est au service d'un cartel mexicain, qui revient à Hong Kong, lui qui les avait fuis. Ils sont venus le chercher parce qu'ils veulent absolument qu'ils rejoignent le groupe. Et évidemment, ça ne se passe pas correctement et ça finit en baston général, à coup de gunfight, de glissade et un peu de pigeon. Même si c'est moins stylisé que chez John Woo. Parce qu'il faut savoir que Tsui-Har a bossé avec John Woo. Il a été le producteur des deux premiers syndicats du crime. Il a réalisé d'ailleurs le troisième syndicat du crime. Donc il est comme ça totalement dans ce carcan-là du film hongkongais. Et... il y a des scènes d'action, et je l'ai revu le film hier soir, je me disais « Ah, j'adore cette scène !» Et dès la scène suivante, je fais « Oh, j'adore cette scène !» Il y a une scène d'accouchement qui est géniale, avec des gunfights et tout ça, qui est juste merveilleux.
Vendu. Allez, j'arrête le podcast, je vais le regarder tout de suite.
Ah non, c'est super... Alors, à la fois, c'est super drôle. Ensuite, c'est la femme qui, à la fois, accouche et tire sur les gens.
Normal, elles savent tous faire ça.
Et c'est génial. Et ce qui est génial, c'est que donc aussi, c'est que le personnage principal, c'est pas vraiment le véhicule du récit, c'est le grain de sable, c'est celui qui va faire tout dérailler. Et il est jamais vraiment dans une espèce de position de favorable par rapport à l'histoire. Il est toujours en train, dans la débrouille, dans essayer de se débrouiller, à faire avancer le récit, à sauver qui, ouais, vraiment, ce film, pour moi, il est génial, et je peux le revoir, et le re-revoir, et le revoir encore, et je ne me lasse jamais, vraiment. L'histoire, la mise en scène, il y a beaucoup, là, je voyais quelqu'un qui comparait Tsui-Hark à Spielberg, parce que donc là, il y a un nouveau film Detective Dick, que je n'ai malheureusement pas eu le temps encore de voir. Et il y a, dans la filmo de Tsui-Hark, une espèce d'effervescence dans sa manière de filmer, de génie. Et là, dans ce film, on sent qu'il a toute sa... Il connaît toute la grammaire du cinéma et il l'applique. Et je pense, pour contrarier d'une certaine manière ces deux films hollywoodiens, là, il met tout. Et donc, ça va dans tous les sens. C'est hyper bien raconté. En deux plans, tu comprends les personnages, tu comprends la situation, tu comprends comment ça se passe. Tu sais qui fait quoi, comment l'action se tourne, la géométrie est toujours parfaite. Il y a une scène où il saute d'un immeuble. Elle est merveilleuse. Enfin, bref. Ce film est l'un de mes films.
On sent la passion dans tes mots, mon cher David.
Ben ouais, c'était le but, hein, un peu de cette rubrique, c'était de montrer un peu ça, c'est-à-dire que y a des films qui m'ont renversé, et celui-ci, c'est le cas. J'ai vraiment été bouleversé, et je peux le revoir, je me souviens de l'endroit et du jour où je l'ai vu, et avec qui je l'ai vu. Et c'est vraiment un grand, grand film, quoi. Alors, on va passer au film honteux, au film qu'on cache sous le tapis, mais qu'on essaye d'en parler quand même dans les podcasts, parce que ça fait moins hipster.
Ok, ma fête c'est le 8 juillet là, on est le 18 août, c'est fini David, ça suffit maintenant, tu as un mois et 10 jours de retard, laisse-moi tranquille. Faut quand même que je parle du film du coup.
Ouais
ok. Non mais t'as dit au début du podcast, tu nous avais demandé notre film préféré, alors je vous rassure, c'est pas mon film préféré, on est effectivement au sein du genre de l'actionneur, vu que c'est, comme l'a dit David dans l'introduction, un genre assez polymorphe, j'aurais très bien pu choisir Star Wars, mais vu que j'ai déjà un podcast Star Wars et que j'en parle tous les 15 jours et tous les jours sur Twitter... Je me suis dit qu'il serait temps de parler d'autre chose, mais ça reste de la science-fiction quand même. C'est pas si loin de Star Wars non plus. Il y a quelques connexions à faire. Ce film est sorti en 98, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film français, hein, voilà. Déjà, il faut le rappeler. Donc, on a eu un film hongkongais, deux films américains et un film français. Heureusement, quelque part, que David et moi-même sommes là pour ramener un petit peu d'exotisme hein, dans ce monde mondialisé.
Ouais. Enfin, ton exotisme, il l'est pas très beaucoup, hein, quand même. Hein.
Ouais.
Bon, voilà. C'est exotique, et la puis... scène d'intro, c'est exotique.
La scène d'intro, c'est exotique, effectivement. Bref, mon film, c'est Le Cinquième Élément de Luc Besson. Voilà. Ouh. Le film honteux. Alors, je sais pas pourquoi honteux en lui-même. Est-ce que c'est le film? Est-ce que ce sont les récentes accusations autour de Luc Besson qui le rendent encore plus honteux? Je suis bien d'accord. Mais mettons... pour les besoins du podcast, l'ami Luc, de côté quelques minutes, pour parler de ce film, dont je ne me souviens pas du premier visionnage, vraiment pas. Là, pour le coup, j'ai une assez bonne mémoire, et notamment quand il s'agit des films et de leurs dialogues, mais je ne me souviens pas de la première fois que j'ai vu Le Cinquième Élément. Je crois que mon premier souvenir, ça devait être, je devais être assez petit, au début du collège ou quelque chose comme ça, ou peut-être même avant, en primaire, ou un truc du genre. Et j'étais chez des amis à mes parents, et ils avaient aussi un petit gars qui avait mon âge, et je sais plus, il voulait sortir ou faire un truc, et en même temps, on venait de lancer Le Cinquième Élément. Et lui, il a dit, bon, bah moi, je sors, je vais voir l'école des potes, ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais timide, j'avais pas envie d'aller jouer au ballon ou de me faire brutaliser par les cadors du coin, je voulais juste regarder un film, donc j'ai regardé Le Cinquième Élément. Et ça m'a complètement bluffé. Et depuis, c'est devenu, avec quelques Tarantino et bien sûr Star Wars, l'un des films cultes que je revois avec mon meilleur pote Raphaël, qui écoute sans doute ce podcast. Donc, je pense que c'est l'un des films que j'ai le plus vu de ma vie à cause de ça. Et c'est là où ça devient peut-être un petit peu honteux, parce qu'à la rigueur, aimer le cinquième élément, pourquoi pas, mais le voir autant de fois, je ne sais pas. Et c'est presque un rituel, donc un film occulte pour moi. Ouais, c'est un film que j'apprécie à bien des égards, dont je connais les répliques absolument par cœur. L'univers me fascinait quand j'étais gamin, parce que c'était de la science-fiction. Parce que c'était pas loin de Star Wars et tellement pas loin de Star Wars que c'est Moebius et Mézières qui ont travaillé sur ce film. Alors il y a eu des altercations avec Luc Besson qui ont fait que ils étaient pas tous d'accord, ils sont tous filés des procès au cul les uns des autres. Et aujourd'hui, Luc Besson, son dernier film, c'est Valérian quand même. Donc voilà. Donc à l'époque, c'était quand même quelque chose qui était largement basé sur l'univers de Valérian et l'Incal et plein d'autres BD hyper influentes du côté de la France, mais aussi du monde, parce qu'on est un grand pays de BD, il faut le rappeler. Et j'adorais en fait cet univers complètement improbable avec un New York qui a des immeubles gigantesques, des taxis volants, les flics avec des armures qui ressemblent à des tortues, des tenues pas possibles, un espèce de futur assez assez fun en fait, assez coloré. Je sais qu'à l'époque, Besson voulait justement faire un truc qui ne ressemble pas à Alien ou à Star Wars ou à tout ce qui était futur usé en fait. Un truc un peu plus playful, je sais pas vraiment comment dire, ludique, ouais, tout simplement.
Ouais, on dirait Blade Runner en plus shiny.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est Blade Runner, mais t'as moins l'impression que t'es obligé d'être déprimé, que c'est la merde, que... Enfin, voilà, tu vois plein de trucs, et bon, alors, on disait qu'on était dans les actionneurs, dans des... Enfin, voilà, on a commencé avec Pirates des Caraïbes, où Johnny Depp est pas exactement le héros d'actionneur. Là, on a un Bruce Willis, donc, qui est typiquement le héros de l'actionneur de ces années-là, quoi. Donc, même un petit peu avant. Et que j'adore dans le rôle de Corbin Dallas. Et je trouve qu'il y a tellement de trucs dans ce film, ça n'a aucun sens. Je relisais des anecdotes pour me préparer. Par exemple, le fait que le méchant ne croise jamais le héros, je trouve ça assez marrant. Il y a plein de trucs comme ça dans le film que je découvre et que je redécouvre à force de le revoir tant de fois. Et je trouve qu'en fait, il a une espèce d'esthétique et de bizarrerie ambiante que je trouve en fait fascinante. Et je crois que quand tu vois ça, quand t'es un jeuneau, tu peux pas être insensible en fait. C'est soit ça te déplaît, ou soit tu vas trouver ça complètement cool et con à la fois en fait. C'est-à-dire, par exemple, un personnage comme Ruby Rhodes, ça te fait rire, c'est hyper chelou, c'est sans doute hyper problématique aujourd'hui, mais je sais pas, moi j'adore ce perso. Je trouve que le film regorge comme ça de design et d'inventivité. Tu parlais, David, tout à l'heure de mettre tout dans ton film. Luc Besson, au départ, il voulait faire une trilogie, puis au final, il a réduit centaines de pages de script à un seul film. Et je trouve qu'il y a plein d'idées, plein de visuels, plein de décors. Il y a plein de scènes d'action aussi, ça mitraille, des courses-poursuites en taxi volant, des guns improbables. Enfin, il y a toute une scène du film qui se base sur le fait qu'un des guns a un lance-roquette, un lance-flamme, un lance-filet, un lance-glace, une arbalète à flèche explosive ou empoisonnée et une mitraillette qui peut suivre ses ennemis. C'est juste complètement... Ouais, délirant comme univers, et c'est ça que j'aime en fait dans le cinquième élément. Et il est fun à regarder, fun à retenir et fun à revoir parce que j'aime bien telle scène, ça me fait triper de le regarder une bière à la main avec mon meilleur pote et de réciter les répliques juste avant qu'elles arrivent. Et c'est en ça que c'est mon actionneur, tu nous avais demandé, notre actionneur de chevet, je crois que c'était l'expression consacrée. Et c'est ça que j'adore dans ce film. Et donc, voilà, j'espère avoir défendu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, vous pouvez me poser plein de questions et puis m'insulter directement. Voilà, allez-y. Ah, faites-vous plaisir, hein, je serai votre punching ball le temps de ce podcast.
Non, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film quand je l'ai vu. Hein. Je me souviens l'avoir vu à l'avant-première, parce qu'il était diffusé à Cannes, à l'époque, en avant-première, et on avait eu droit à une avant-première aussi mondiale, et je me souviens l'avoir vu au cinéma. Donc, et je me souviens avoir bien aimé. Mais le truc, c'est que je me pose la question si ce film, je l'ai bien aimé parce que j'étais dans le moule des années 80-90 et que Bruce Willis à fond, et que d'une certaine manière, c'est dans un cadre de space opéra et on était encore quand même en manque un peu de Star Wars, et même la prélogie n'était pas forcément ce qu'on pouvait attendre. Mais je crois d'ailleurs que c'est avant la prélogie, d'ailleurs.
Bah, c'est avant la prélogie, c'est un an avant La Menace Fantôme.
Donc je pense qu'il y avait comme ça une espèce de... En tout cas, moi, je me souviens que j'avais une appétence pour le Space Op, et ça me donnait ce que j'avais envie de voir, et c'était avec... C'était fun, quoi. Il y avait vraiment des trucs un peu fun. Aujourd'hui, je l'ai revu. Bah, c'est beaucoup moins fun. Il y a quand même Bruce Willis qui embrasse de force Mila Jovovich.
Mais ça, c'est très Luc Besson, ça.
Ça, c'est très Luc Besson. Et puis, ça vient avec Luc. Alors, au rang des films problématiques de Luc Besson, ça ne battra jamais Jeanne d'Arc, qui est sans doute le plus atroce de tous. Mais, ou en tout cas, l'un des plus atroces. Ou le script de Léon, par exemple. Où la pédophilie a été validée le temps d'une scène parce que bah, c'est sympa, la pédophilie. Ouais, le personnage et l'époque font que. Mais ouais, ça reste un film que j'aime bien regarder, et malgré moi, malgré ma conscience, parfois.
Mais tu le reconseillerais aujourd'hui ? Genre, quelqu'un te dit « je veux voir un bon Space Op », tu dirais « tiens, regarde Le Cinquième Élément ».
Bah, je trouve qu'il a un certain charme dans son côté généreux, slash carton pâte, slash futur shiny, mais pas trop, avec des trucs haut en couleur, un peu flingués. Et en plus, si tu veux, le fait qu'il n'y ait jamais eu d'univers en fait, autour du Cinquième Élément, alors c'est largement basé sur des BD, comme on le disait, mais il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de film d'animation, il n'y a pas eu de série, il n'y a pas eu de BD, il n'y a pas eu de roman autour du... Enfin, il y en a peut-être eu... Il y a forcément un connard qui va me trouver un produit dérivé, Le Cinquième Élément, que je ne connais pas, mais... rend le truc d'autant plus savoureux, quoi. Besson avait déjà dit qu'il était intéressé par l'idée de faire des suites à tout ça. Mais moi, ça me fait délirer quand on commence le film en Égypte en 1914 et qu'il y a des aliens qui arrivent dans leur vaisseau et que c'est des espèces de mecs qui peuvent même pas marcher, leurs bras sont collés dans leur corps, on comprend pas si c'est des exosquelettes ou des aliens. Et puis tu sauras jamais, tu vois, on s'en fout, on t'explique pas et on te balance des orques de l'espace, des mecs en armure dorée, une meuf qui a les cheveux orange. Le méchant, c'est à moitié Hitler, à moitié un dandy, il a une perruque en plastique transparente sur la tête, enfin, c'est nimp ce film, tu vois, genre quand aujourd'hui tu vas à Hollywood, tu décris l'univers, les mecs ils te rient à la gueule, mais c'est quoi ton truc, tu vois. Et pourtant, et du coup, rien que pour ça, pour la curiosité que ça représente, Le Cinquième Élément, je le conseillerais carrément, quoi. Avec les pincettes qu'il convient de prendre aujourd'hui, comme on vient de le dire, surtout avec notre ami Luc Besson, mais n'empêche que j'y trouve toujours mon compte.
Et dans le filmo de Luc Besson, tu le mets où ?
Bah, au sommet, avec Léon, quoi. Donc, parce que, déjà, je trouve que sa filmo, elle n'est pas extraordinaire non plus. Ses premiers films sont quand même pas mal, mais je trouve que c'est son dernier bon film, quoi, Luc Besson. Donc, je trouve vraiment que c'est un bon film, Le Cinquième Élément. Il y a plein de trucs qui, aujourd'hui, passeraient pas. Il y a plein de défauts et tout, mais... Je veux dire, ça a de l'ambition, c'est fun, c'est un peu, là aussi, dans un délire un peu monomythe, tu sais où ça va, t'as zéro surprise, etc. Mais tu prends ton roller coaster et tes designs et ça fait plaisir. Après, voilà, faut aussi valoriser tout ce qui est de l'à côté du film, c'est-à-dire la production, les designs et tout ça, que tous les spectateurs ne mettent pas forcément en premier dans leurs critères de sélection, mais moi j'adore, donc je le mettrais assez haut dans sa filmo, c'est sûr. Ouais.
Donc quelqu'un a envie de dire quelque chose contre Le Cinquième Élément ?
Allez-y, lâchez-vous.
Je m'abstiendrai.
Non, bah, en fait, du coup, comme Thibaut l'expliquait, Le Cinquième Élément, je l'ai vu avec lui et son pote Raphaël première fois.
Constance, elle doit subir mon amour pour Le Cinquième Élément, c'est comme ça qu'il faut le préciser, quoi.
Voilà, on n'était pas encore ensemble à l'époque, donc ça ne m'a pas totalement arrêtée. Mais ouais, je voulais juste souligner qu'il y a un essai vidéo sur YouTube qui s'appelle Born Sexy Yesterday, qui notamment s'appuie sur la figure de Lilou Dallas et explique tout le stéréotype qu'il y a autour de ce genre de personnage féminin. Donc c'est hyper intéressant à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, et sinon, je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter sur ce film.
Mais Lilou Dallas, c'est quand même typique des films de Luc Besson où il commence une histoire avec un personnage féminin assez fort et qui finit par « elle a besoin de l'aide d'un homme pour pouvoir
se réaliser.
Exactement. Elle peut pas le faire d'elle-même. Et c'est un thème récurrent dans tous ces films qui un peu me font mal à l'intérieur.
Oui, mais à la fin, c'est l'amour qui gagne quand même.
Ah ouais, mais je sais pas quand t'as un personnage fort comme le personnage féminin du Pirates des Caraïbes ou Sarah Connor ou personnage de féminin d'Alien, j'ai oublié son nom, je m'en veux terriblement.
Ripley.
Putain, c'est du personnage badass quoi, et ils ont besoin de personne pour tuer les monstres. Mais là, ça me...
Bah, surtout que là, c'est une figure qui est un peu enfantine en fait, hein, qui découvre le monde, etc. Et y avait déjà ça dans Léon et même dans d'autres de ses prods. Hein.
Et c'est un Mando Shawan, elle, non?
Ouais, c'est une personne qui est reconstituée.
Du Mando Shawan, qui s'est fait couper la main pour n'importe quoi dans la pyramide, c'est ça? Je l'ai vu il y a très longtemps, ça fait... Je demande aux spécialistes, je vais demander aux spécialistes.
Effectivement, on repart de sa main pour la reconstruire, elle est protégée par les mondes de Shawan, mais j'ai donc cette espèce
mais
avec
elle-même arrive dans l'espèce d'armure de marshmallow.
J'ai jamais fait le lien entre le fait que c'était elle ou pas, je crois pas, parce qu'en fait du coup le début du film te dit, enfin pas le début dans les années, enfin en 1914, mais le début dans le futur, t'as des émissaires des mondes de Shawan qui viennent protéger la Terre, ils se font attaquer et on dit qu'ils ont récupéré un truc du crash, donc je pense pas que ça soit l'un des personnages qu'on voit au début.
Ah, okay.
Mais après ça se trouve, avec mon biais cognitif d'enfant ou de préadolescent, j'ai toujours compris le film comme ça et en fait j'ai pas compris le film. Ce qui serait génial quand même, c'est qu'on vienne m'expliquer qu'en fait, parce que là techniquement c'est vrai qu'effectivement il y a un moment il y a un monde de Shawan qui bloque une porte avec son bras, mais
à partir de cette main là qu'on reconstitue Lilou, non?
Peut-être que du coup c'est...
Donc en fait il y a un Lilou dans tous les mondes de Shawan?
Non, c'est un vaisseau qui se crache.
Ouais, c'est un vaisseau qui se crache.
Il récupère effectivement la main d'un monde de Shawan ou la main de quelque chose, mais en fin de compte la main c'est pas la même chose que le corps.
D'accord. Ok.
Non, mais ça aurait pu être la main, tu vois, qui aurait été momifiée depuis 1914 par les aliens et qui doivent la porter.
Ah, c'est ce que j'avais.
Non, c'est chelou.
Ok, d'accord. C'est ce que j'avais compris, moi.
Mais en fait, tu viens de rendre le film limite plus intéressant qu'il est vraiment, donc c'est quand même exceptionnel. Je pensais qu'on ne m'apprendrait rien sur le cinquième élément. Tu sais, c'est l'équivalent de la toupie dans Inception. Là, ça y est, je suis en fusion. Je suis à bout là. Faut que je le revoie. Faut que je confirme. Je confirme que je n'ai pas vécu dans un mensonge pendant des années. Enfin, voilà.
Allez, on va passer à la prochaine section, qui est un petit quiz, parce que pourquoi pas.
Oh, les quiz.
Attends, ça va, je t'entraîne depuis les deux premières émissions. Normalement, tu dois être au taquet.
Et j'étais fort dans la deuxième.
Donc, ce sera un quiz Die Hard. Die Hard-like.
Ah.
Parce qu'on est sur les 30 ans de Die Hard. Et Die Hard a fait plein de petits. Donc voilà, vous êtes prêts?
Ouais, on est prêts.
Ok, tout le monde, c'est bon?
Ah ouais, vas-y.
Allez.
Alors, la première, elle est simple. Die Hard avec une jambe en moins.
Skyscraper.
Yes. Tu vois, je t'avais dit, je t'avais bien entraîné.
Ah, il m'a bien entraîné, le con. Il est bon. Il est bon.
Die Hard en Indonésie.
Ah, la vache.
The Red.
Yes.
The Red. Ah, merde. J'ai été dépassé. C'est à cause de Skype, hein, je l'ai dit en premier.
Die Hard dans un bus.
Speed.
Yes. Die Hard en bateau.
Speed.
Speed 2.
Yeah. Die Hard à Alcatraz.
The Rock.
Yes. Ah. Die Hard à la montagne.
Ah putain, comment il s'appelle le film avec Stallone? Ah, il a un autre
The
titre en français du coup.
Juste... Yes.
Cliffhanger, c'est ça. Putain.
Die Hard fait de l'aïkido.
Oh, c'est avec Steven Seagal, ça.
Yes, c'est toute la filmo de Steven Seagal. Piège à haute mer et piège à grande vitesse.
C'est toute la filmo. Toute la filmo.
Allez, une question bonus. Allez, Die Hard avec Eric et Ramsey.
La tour Montparnasse en finale.
Yes, Constance.
Ah, bravo.
Ouais,
yes, Constance, c'est l'un des meilleurs. C'est bien ces quiz, on devrait faire des podcasts que avec des quiz.
Ouais, bah c'était dingue.
C'est ce qui est extrêmement chiant sans doute pour nos auditeurs, parce qu'ils ont la réponse avant nous et ils nous prennent vraiment pour des cas.
Ah, ça va, c'est bon. Fusé quand même.
Ouais, speed 2.
Allez, on va passer dans la dernière partie de cette émission. On va passer au Rocco. Et qui veut commencer? Constance, Thibaut?
Constance, vas-y.
Ouais, alors je sais pas si tu voulais te restreindre aux recommandations actuelles, mais du coup, pour rester dans la thématique pirate, je vous recommande l'excellente série Black Sails, qui s'est terminée là il y a un an et demi, deux ans, et qui est une série qui est passée un petit peu inaperçue et qui est totalement sous-cotée, parce que honnêtement, je trouve que c'est même mieux que Game of Thrones. Concrètement, c'est une série de pirates qui est produite par Michael Bay. Alors dit comme ça, on se dit waouh, ça va être un truc complètement teubé avec des bateaux qui explosent.
On fera un épisode Michael Bay.
Mais non, du mais coup, obligé, ouais. En fait, non. Alors certes, les quelques premiers épisodes sont un petit peu racoleurs, mais on se rend compte que c'est vraiment très intéressant, c'est hyper dark. C'est un petit peu quelque part entre Game of Thrones et Pirates des Caraïbes, quoi. Et la galerie de personnages est assez dingue. Pour le coup, il y a aussi des femmes pirates. Il y a plein de persos queer. Il y a un plot twist de ouf dans la saison 2. Enfin bref, c'est assez incroyable et ça explore toute la mythologie des pirates.
C'est un mélange entre l'histoire réelle de la piraterie et l'île au trésor.
Oui, c'est une préquelle à l'île au trésor. C'est pour ça qu'on retrouve Long John Silver et on retrouve tous les personnages canoniques de l'île au trésor dans cette série. Je conseille aussi, hein, j'adore cette série.
Très grosse maîtrise des enjeux.
Tout à fait. Et qui, en plus, c'est bien réel. Les décors, les costumes sont assez dingues. L'acteur principal est complètement incroyable. Donc vraiment, regardez cette série si ce n'est pas déjà le cas. Vous ne le regretterez pas.
Et surtout, si vous connaissez le livre de L'île au trésor, il y a des éclairages. Quand on voit, par exemple, certains personnages, qu'on sait ce qu'il leur advient dans la suite, dans le livre, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je rajoute un autre conseil. Si vous aimez donc les pirates, et vous aimez Black Sails, et vous aimez L'île au trésor, il y a un autre livre qui s'appelle Long John Silver, qui fait la suite à L'île au trésor, qui est écrit par Bjorn Larson, si mes souvenirs sont bons, qui est juste génial.
C'est quoi ta reco, David?
Moi, j'avais pensé à Battleship Island. C'est un film coréen de Ryo Seung-hwan, donc là, désolé pour la prononciation, qui est juste fantastique. Ça raconte l'histoire de Coréens qui sont envoyés en travaux forcés sur l'île de Hashima. En fin de compte, c'est un camp de concentration. Et on voit leur vie, on suit trois ou quatre personnages. Et jusqu'à la scène finale, qui est complètement... donc ils vont essayer de s'échapper de l'île, qui est absolument fantastique. Alors c'est un film à charge contre les Japonais, surtout qu'à la fin du film, par exemple, ils disent que les Japonais n'ont toujours pas reconnu ce qui était advenu de ces populations-là, envoyées donc aux travaux forcés. Les femmes faisaient prostituer, les hommes travaillaient dans les mines dans des conditions déplorables, dans les mines de charbon. On leur disait que, en tout cas dans le film, on leur disait qu'ils travaillaient donc qu'ils avaient un salaire, mais que leur salaire était retranché, enfin... Leur séjour, leur nourriture et tout ça était retranché sur leur salaire qu'ils étaient censés gagner au sein de la mine. Mais en vérité, on apprend que leur salaire est aussi volé par un autre Coréen. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas une charge à proprement parler sur les Japonais, parce qu'on découvre qu'il y a aussi des Coréens qui sont aussi des pourritures. Et il y a notamment un acteur que j'adore qui fait souvent les rôles de type pourri. On l'a vu dans... le film du réalisateur de Dernier Train pour Busan, le nom m'échappe, Psychokinesis, qui fait déjà le rôle du type pourri. On le voit aussi dans la série qui s'appelle, une série coréenne qui s'appelle Bad Guy Val City. Enfin bref, ce gars, il a une carrière de fourbe. Je pense qu'après il peut faire Iago dans Othello, c'est bon quoi. Je pense qu'il aura fait le tour de tous les rôles à sa disposition.
Je croyais Iago dans Aladdin. Qu'il est fourbe aussi. Hein.
Effectivement.
Mais j'ai pensé à Iago dans Aladdin. Très grand actionneur d'ailleurs. Avec Tom Cruise dans le rôle principal. Ceux qui l'auront seront récompensés.
Donc en Battleship Island, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un très très bon film. Bon, et à toi Thibaut, qu'est-ce que t'as comme reco?
Moi j'ai une reco bande dessinée. J'ai parlé de bande dessinée récemment. Donc là ça sera aussi de la bande dessinée, du comics pour être exact. Ce n'est pas encore sorti en France, mais si vous lisez en anglais, ou en tout cas gardez un œil sur cette série, parce que pour l'instant elle est assez géniale. C'est une série de science-fiction qui s'appelle The Weatherman, donc l'homme météo, qui est sorti chez Image Comics et qui est proprement excellente. C'est l'histoire d'un mec qui est En gros, la Miss Météo de Mars. Et en fait, qui va se retrouver à une affaire complètement dingue qui le dépasse, qui implique un génocide planétaire. Voilà, je ne présente pas trop plus l'histoire parce qu'en fait, le premier numéro est vraiment excellent et se termine sur un twist qui est assez incroyable. Et le deuxième numéro enchaîne sur un twist assez incroyable et le troisième numéro est aussi très très bon. Donc, c'est mené avec un rythme et un sens des, comment dire, de la pure dramaturgie qui est vraiment bien. C'est hyper drôle, assez violent. Et en même temps, c'est dans un univers de science-fiction moitié réaliste, moitié futurisé, avec des vaisseaux qui ont des gueules de requins peintes sur le nez, façon avion de la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment bien et qui rend vraiment bien en dessin. Donc j'espère qu'un éditeur français se mettra en quête des droits de cette série et qu'elle continuera à être aussi surprenante qu'elle l'a été sur ses premiers numéros. Donc en tout cas, si vous lisez de la bande dessinée en VO, vous êtes curieux de voir un peu de la SF traitée sous un angle un peu original, eh bien allez-y.
J'ai vu que sur Twitter, vous aviez parlé un petit peu de Mary Shelley, vous avez été voir le film, c'est ça? Vous voulez en toucher deux mots?
Ah bah ouais, volontiers. Bah, Constance, tu veux peut-être commencer?
Oui, donc effectivement, on allait voir Mary Shelley hier au soir, qui est donc un film, bah, comme son nom l'indique, sur la vie de l'écrivaine Mary Shelley, et particulièrement en fait sur la période durant laquelle elle a écrit Frankenstein. Parce que oui, Frankenstein a été écrit par une nana, une petite nana de 18 ans d'ailleurs. Et donc un film est sorti là pour fêter donc, les 200 ans du roman. Et le film est, il est ce qu'il est, il est un petit peu fauché, on sent qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de moyens derrière, mais qu'il a été fait quand même avec amour. Elle Fanning s'en sort vraiment très bien dans le rôle principal. On a des acteurs british qu'on a l'habitude de voir, notamment quelques figures bien connues de Game of Thrones qui apparaissent par-ci par-là. Et puis donc ben, le film raconte quand même la vie assez incroyable de cette jeune femme dont les parents étaient eux-mêmes des écrivains et militants pour voilà, des valeurs autour des droits des femmes, de la liberté.
L'athéisme.
De l'athéisme. Donc elle a grandi dans un milieu quand même assez original et unique pour son époque. Et c'est voilà, une femme forte et ça raconte ça. Et il faut savoir que le film a été réalisé aussi par une réalisatrice saoudienne, si je ne me trompe pas. Donc rien que ça, c'est également un truc assez... assez original hein, dans le paysage hollywoodien actuel. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de fonds qui soient débloqués pour raconter l'histoire de cette nana, parce qu'elle a quand même inventé un monstre, comme je le disais sur Twitter, et qui a quand même marqué ben, la pop culture actuelle, quoi, et aussi tout le début de l'histoire du cinéma et du cinéma d'horreur. Donc voilà, donc, honnêtement, il ne faut pas s'attendre à un truc ouf, mais allez le voir. Parce que c'est quand même un moment important, je pense, de la culture.
Enfin, dans tous les cas, je pense qu'il faut découvrir la vie de Mary Shelley. Hein.
Ouais, je suis d'accord.
Tout
ouais.
À fait.
Mais c'est quand même triste de voir que ça ne fait pas tant de bruit, en fait, les 2 ans de ce bouquin et la vie de cette autrice. Ils ont eu la chance d'avoir Elle Fanning, parce que je pense que sans elle, au final, on n'aurait jamais entendu parler de ce film.
Bah, ça aurait été un DTV. Hein.
Et voilà, donc là, c'est distribué par pas mal d'indépendants et ça a été financé aussi par pas mal d'indépendants et l'argent du Luxembourg, visiblement, d'après le générique. Mais donc voilà, si vous avez l'occasion, même si vous... Enfin voilà, comme dit Constance, faut pas s'attendre non plus au chef-d'œuvre du siècle. C'est quand même, à titre informatif, hyper bien foutu et plutôt renseigné. Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir vu un de ces films qu'on va montrer aux étudiants en littérature ou aux gamins au lycée dans quelques années, quoi, parce que ce sera bien fait, ce sera pas dégueulasse à regarder, et puis ça présentera la vie de cette autrice-là, si on entend en tout cas la réhabilité dans le cercle bien gardé de la littérature, quoi. C'est toujours un peu la question, et d'ailleurs, voilà, enfin, je pense que si au final Frankenstein aurait été écrit par un mec, on aurait eu The Rock dans le rôle, blockbuster à fond, et il y a Frankenstein en CGI avec James Cameron, tu vois. Enfin bon, voilà.
D'ailleurs,
dommage quelque part.
Pendant un temps, le livre de Frankenstein a été attribué à son père et non pas à Marie. Mm-hmm.
À son compagnon,
ouais,
en fait.
Ouais, à son compagnon.
Plutôt.
À son compagnon Percy, au départ, à ouais. Percy au préalable, mais ensuite on a pensé que c'était son père. Parce que donc le livre a peut-être. Attends, le livre a été dédicacé à son père. Ah oui, c'est pour ça. Ok, non, c'est pas le père. C'est parce qu'il est dédicacé au père, parce qu'il a été écrit de manière anonyme, comme il y avait un certain nombre de livres à l'époque. Et donc il a été dédicacé au père de Marie, et donc on pensait que c'était effectivement Percy.
Tout à fait, parce que Percy avait écrit l'introduction en fait du bouquin. Et d'ailleurs on le voit bien dans le film, tous les maisons d'édition qui refusent en fait le manuscrit. Parce que c'est une femme qui l'a écrit et que c'est inconvenant pour une femme d'écrire des choses d'horreur.
Bah surtout que ce qui est marrant, c'est que Frankenstein vient d'un concours d'écriture entre des grands esprits. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que elle qui finit par sortir un roman qui va marquer, qui est quasiment l'une des pierres fondatrices du roman fantastique.
Tout à fait.
Et le parcours de cette femme, vraiment, vraiment, faut se renseigner là-dessus parce que donc elle a perdu plusieurs enfants, son mari était du genre en volage, il s'est noyé quelques années plus tard après la publication de Frankenstein, et il est sorti en bateau, il savait pas nager, hop, tombé à l'eau, hop, mort. Et ensuite elle s'est pas remariée, elle a élevé son fils, elle a écrit après plus tard pour subvenir à ses besoins. On est à l'époque donc. On est vraiment dans un siècle où les femmes n'ont pas de travail, et donc elle faisait partie de ces femmes qui arrivaient à vivre sans le poids d'un homme, ou en tout cas sans le fait... elle n'est pas sous la férule d'un homme pour vivre, et elle a un parcours juste formidable.
Mais elle a galéré. Moi, ce que je trouve assez fantastique dans son histoire aussi, c'est que après la mort de Percy, elle a conservé son cœur calcifié, ouais, dans une boîte, dans son meuble de chevet. Donc, je trouve ça, il n'y a pas plus romantique que ça. C'est quand même assez, assez extraordinaire. Mmh. Et pour les gens qui sont intéressés, de ce côté de l'Atlantique, les éditions Pingouin ont réédité le texte originel.
Alors, de ce côté de l'Atlantique, ça veut dire New York, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi.
Ah oui, pardon.
Je t'ai pas fixé dans le...
Dans...
géographiquement
sur le globe. Ouais, pardon.
Si on a parlé de New York et de ses taxis volants.
Ouais, je sais pas si les gens ont fait le rapprochement, mais oui, effectivement. Donc ouais, aux États-Unis là, ils ont réédité le texte original de Frankenstein, et il y a d'ailleurs une intro hyper hyper intéressante où il raconte la vie de Mary Shelley. Je le recommande vivement pour les gens qui ont accès.
Ok, bah toi, Steven, ta recommandation.
Ok, une autre recommandation. Donc, ça n'a rien à voir avec l'actionneur, pas vraiment. C'est une série de films, Les Chemins de Traverse, distribués par l'Arabia. Trois films de Takeshi Kitano, Kids Return, Hanabi et Kikujiro no Natsu, qui ont formé ma filmographie dans les années 90. Et je suis tellement content qu'ils soient, comment ils disent, restaurés. Je perds mes mots en français. Qui soit fraîchement restauré et pressé en DVD et Blu-ray, mis dans des coffrets magnifiques. Je recommande vivement ce distributeur. Et d'ailleurs, récemment, ils ont sorti au cinéma A Scene at the Sea, un autre film de Takeshi Kitano. J'aurais tellement envie d'aller le voir et je peux pas parce que c'est trop loin. Ça a l'air d'être dans une série limitée de théâtre, de cinéma en France. Et je ne vais pas avoir la chance de le voir au cinéma, mais s'il vous plaît, allez le voir pour moi.
Et d'ailleurs, dans ce qu'a réédité l'Arabia, ils ont réédité Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui est un réalisateur coréen. En gros, son film, c'est une histoire de meurtre en série. Et on est dans cette ambiance un peu à la Seven. Et c'est juste, ça éclate Seven. C'est-à-dire, si vous aimez David Fincher, découvrez ce film de Memories of Murder. C'est tellement au-dessus. C'est juste mais incroyable. Et d'ailleurs, le travail de restauration est juste magnifique. Pour un film 4K, c'est un film Blu-ray. Son image est juste mais magnifique, quoi. Moi qui ai tendance à bouffer beaucoup de Blu-ray, là, il y a une vraie différence. La qualité est juste sublime.
J'ai vu quelques images, moi, de Kids Return, parce que j'ai commandé les Blu-ray de France avec Amazon.fr. J'ai dû d'ailleurs...
Waouh, et bonjour, merci le placement produit. Amazon, si tu m'écoutes.
Bip, bip.
J'ai dû d'ailleurs
investir... Amazon Money.
Bah attends, je vais en toucher un autre. J'ai dû d'ailleurs investir dans un Blu-ray, dans un lecteur Blu-ray que je possédais
de
pas.
De quelle marque, vois-tu?
De chez Sony, que j'ai acheté...
Sony, si tu veux.
Que j'ai acheté à BNH, et BNH, si tu nous entends.
Sony qui finance l'intégralité du podcast actionnaire d'ailleurs.
Et
c'est pour ça qu'on on dira pas du mal du prochain film
Spider-Man
Venom.
Et Venom. Ouais, alors vas-y.
Ah, je vous ai séché, hein.
Bon, alors vas-y, donc BNH, là, c'est bon, on a le placement produit BNH. Ouais.
Ah ouais, donc j'ai vu quelques images de Kids Return sur le Blu-ray et effectivement, la qualité de la restauration est époustouflante. Ouais, je peux que recommander vivement tout ce qui sort pour l'instant de ce que j'ai vu de l'Arabia, c'est fantastique.
Allez, on va se laisser là. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast.
Avec plaisir.
Merci à toi de nous avoir invités.
Ah, c'était cool.
Moi, je te dis pas merci puisque j'ai été moqué, raillé pendant 1h et 24 minutes.
Il faut assumer ses choix, Thibaut.
Oui, j'assume.
Bah, ça va, t'as éclaté tout le monde au quiz.
Ouais, c'est vrai. Speed 2.
Oh. Allez, Thibaut, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Si vous aimez les podcasts, vous pouvez écouter le podcast Star Wars Outrider, qui est le mien, qu'il est bien parce qu'il est deux fois par mois et qu'il y a un épisode sur les news Star Wars et un autre thématique. Donc les deux derniers, c'est un point sur les news et un point sur les femmes et Star Wars. Enfin, un épisode thématique. Et dans les deux, il y a Constance, d'ailleurs. Donc, vous pouvez retrouver Outrider ou mon compte perso sur Twitter, République, avec 33K à la fin, au lieu de IQUE, parce que je suis quelqu'un d'original. Voilà, ça fait plaisir.
Constance, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Donc, comme Thibaut l'a mentionné, vous pouvez me retrouver dans les deux derniers podcasts de la Outrider. Sinon, sur Twitter, je m'appelle Hi Phobos et je fais aussi du cosplay, Phobos Cosplay.
Ok, Steven, je sais qu'on te retrouve nulle part.
Oui, on peut me retrouver dans Queens, à New York, ou quelquefois à Manhattan, okay. À Soho, où je travaille. Voilà. Sinon, je ne suis pas sur les médias sociaux, malheureusement.
Malheureusement, ouais.
Heureusement, tu devrais dire. C'est pour ça qu'il est souriant, là, sur sa miniature et tout. C'est parce qu'il ne connaît pas les réseaux sociaux. Il n'est pas déprimé comme nous tous.
Bon, et toi, David, où est-ce qu'on te retrouve?
Déjà dans Actionneur. Donc, vous pouvez retrouver Actionneur sur toutes les plateformes de podcast et même sur Deezer depuis peu. Et donc, il y a le compte Actionneur sur Twitter. Donc, c'est Twitter... Twitter, ça vous le connaissez. C'est @actionneur_pod. Il y a aussi une page Facebook où personne ne va. Elle existe. Il y a un compte Instagram aussi. Donc voilà, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des étoiles sur iTunes. Ça permet d'être référencé un peu mieux. Et donc on va se laisser là. À plus.
Au revoir.
Des bisous.
À bientôt.
On fera une émission sur Speed un jour, David. Franchement, j'ai trop envie de parler de ce film. J'adore Speed 1, en tout cas.
Ouais, j'aimerais bien, ouais. Moi aussi, j'adore Speed 1.
Allez.
Ah, mais
un épisode sur Keanu Reeves. Yes.
C'est ce que je pense.
Keanu Reeves. Ah ouais.
Je pense faire un numéro pour
John
Wick.
Pour la sortie de John Wick 3.
Ouais. Et je pense qu'on aura...
putain. Ça c'était... ça a failli être ma sélection, ça, John Wick.
C'est vrai que c'est un putain de film.
Ouais, j'arrête pas de le revoir. Hein.
Mais je préfère le cinquième élément.
Ouais, donc je pense faire un numéro sur Keanu Reeves ou John Wick, je sais pas. Je verrai en fonction de la matière.
On verra. On fera un épisode sur les pirates.
Ouais. Ça va être chaud quand même. À part Pirates de Roman Polanski, Pirates des Caraïbes.
Bah Polanski, écoute, on est bien, on est dans la...
on est thématique,
on est
là, c'est
thème.
Bien là.
On est super bien. On est vachement bien. Free Luc Besson.
Celle-ci, je la garde. Je te le dis tout de suite.